Mais d'abord le journal de 18h. Bonsoir Amélie Perrier.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Une marée humaine dans les rues d'Alger. Des centaines de milliers d'Algériens ont manifesté, pas convaincus par le message du président Bouteflika, qui ne brigue pas de cinquième mandat, mais qui reste au pouvoir pour une durée indéterminée. Ils étaient chauds, plus chauds que le climat. Les jeunes ont manifesté eux aussi partout sur le globe. Cette fois aujourd'hui, grève mondiale contre le réchauffement de la planète. En France aussi, malgré les débats organisés par le ministre dans les lycées. La Nouvelle-Zélande sous le choc de l'attaque terroriste contre deux mosquées qui a fait près d'une cinquantaine de morts. On dressera le portrait du suspect arrêté d'extrême droite. Et puis nous irons à la grande mosquée de Pantin, choquée elle aussi par le drame. La France rapatrie des enfants de djihadistes. 5 petits de moins de 5 ans sont rentrés de Syrie. Le retour du soleil, la météo à la fin de ce journal.
Les rues d'Alger envahies aujourd'hui encore par une foule massive.
C'était un test après la lettre du président Bouteflika aux Algériens. Il y annonçait lundi qu'il renonçait donc à un cinquième mandat, comme le demandait la foule, mais aussi qu'il reportait les élections sine die et qu'en conséquence, il prolongeait son mandat. Une ruse pour rester au pouvoir, dénoncent de nombreux Algériens. Une ruse qui ne passera pas à en croire l'ampleur de la mobilisation en ce vendredi. Le reportage de notre envoyé spécial Saïd Séguir.
C'est la société civile dans toute sa diversité qui continue en ce moment même d'arpenter les rues d'Alger. Hommes, femmes, enfants, beaucoup d'anciens aussi, comme cette grand-mère Malika venue pour la première fois et qui a voulu rendre hommage à une jeunesse, dit-elle, trop souvent décriée.
Elle a eu la réputation d'être des voyous, des escrocs, des drogués. On l'a compressée, on l'a mise dans un puits, on lui a mis le couvert dessus. Voilà la jeunesse, la vraie jeunesse.
Dans le cortège, les chants répondent aux pancartes FLN, dégage, Bouteflika, ça suffit, mais aussi Macron, tais-toi, que brandit rageusement Walid, 25 ans.
Le président Macron, il intervient dans les affaires algériennes. On ne veut plus d'intervention étrangère. On n'a aucun problème avec le peuple français. On n'a pas intervenu dans le problème de Gilets jaunes. Alors, il respecte notre décision. On est autonome.
Devant tant d'énergie, Belaïd et Jamila, eux, sont convaincus que la victoire est proche. Il faut maintenant, disent-ils, assurer une vraie transition.
Il faut qu'on ait des représentants populaires. Il va y avoir une dizaine de personnalités qui vont pouvoir mener la voix du peuple.
Une fois de plus, le peuple algérien a réussi sa démonstration de force, alors qu'un gouvernement devrait être annoncé d'ici peu, probablement dans l'indifférence générale. À Alger, Saïd Séguir pour France Inter.
En France aussi, on manifestait aujourd'hui, mais là, pour le climat, étudiants, lycéens, collégiens, les jeunes ont répondu à l'appel à la grève mondiale avec des slogans bien sentis, fondu, c'est foutu, sans pétrole, la fête est plus folle, des pancartes à retrouver sur notre site franceinter.fr. Quelques beaux exercices de style donc, mais sécher les cours pour dire non au réchauffement climatique. Le ministre de l'Éducation nationale était contre. Jean-Michel Blanquer avait donc demandé aux établissements d'organiser des débats en classe. Au lycée Hélène Boucher dans le 20e arrondissement de Paris, où s'est rendu Alexis Morel, il y a eu un débat et une manif.
2 heures de table ronde ce matin dans ce lycée parisien, mais à l'initiative des élèves eux-mêmes. Ils y avaient pensé avant que le ministre demande à tous les établissements d'organiser un débat.
En fait, Blanquer qui a proposé de 16h à 18h, c'est arrivé après coup. Nous, on avait déjà organisé ce débat. Après, bien sûr qu'on l'a organisé durant la matinée pour pouvoir aller manifester. Mais c'est aussi important d'avoir deux niveaux d'action.
Et oui, n'en déplaise au ministre, le programme du jour ici, c'était débat plus manif. Avant de rejoindre le cortège, 250 lycéens ont donc échanger avec des spécialistes du climat.
Vous nous dites que c'est un problème d'énergie, mais est-ce qu'il existe une énergie complètement propre ?
Très content d'avoir cette question. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses et on entend beaucoup de choses fausses.
Quentin Perrier, spécialiste de la transition énergétique, il est regonflé à bloc après cette discussion.
Il y avait toute la salle pleine pour 2 heures de débat et on sent qu'il se passe quelque chose. Et là, de voir la salle pleine, vraiment, ça faisait chaud au cœur. Et ça, c'est des journées qui donnent de l'espoir.
Mais côté lycéen aussi, cet échange a motivé les troupes. Leïla, par exemple.
Là, ça m'a grave mis des trucs en mode, mais vas-y, réveille-toi, quoi. En fait, tu te rends pas compte. Moi, tout ça, ça m'a fait peur pour mes enfants, pour moi. Enfin, j'aimerais parler avec des gens, j'aimerais les renseigner sur ce que moi j'ai appris là. Alerter les gens, dire mais il faut se réveiller les gars parce que là ça va pas du tout ça.
Leïla et ses camarades ne comptent donc pas s'arrêter à ce débat. Ils veulent maintenant rapidement des actions concrètes dans leur lycée.
Et grève mondiale, on l'a dit, les jeunes ont manifesté également à Sydney, en Australie, à Bangkok, Hong Kong, à Delhi, à Berlin, à Kampala, en Ouganda ou encore à New York. À Christchurch aussi, la jeunesse défilait quand la ville a été brutalement frappée par des attaques terroristes. Christchurch, sur la côte est de la Nouvelle-Zélande, dans deux mosquées de la ville, un homme a tiré sur les centaines de fidèles musulmans réunis pour la prière du vendredi. 49 sont morts, des dizaines d'autres ont été blessés. Valérie Crova, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous avez rejoint pour dresser le portrait de l'assaillant, car il a filmé et diffusé en direct les images de l'attaque. Et avant de passer à l'acte, il avait aussi mis en ligne un manifeste raciste, le grand remplacement, en référence aux thèses xénophobes du français Renaud Camus. Alors que sait-on, Valérie, de cet homme ?
Il a 28 ans, il est australien, son identité n'a pas encore été dévoilée par les autorités néo-zélandaises, il dit être né dans une famille modeste. Avant de passer à l'acte, vous venez de le dire, il a publié un manifeste sur son compte Twitter, son titre « Le grand remplacement ». Dans ce document de 74 pages, il détaille ses motivations qui sont confuses. Il dit avoir décidé de commettre un attentat lors d'un voyage en Europe et notamment en France en 2017. Pour lui, la France est remplie d'envahisseurs. Il réserve le terme de français aux seules personnes de couleur blanche. Il explique qu'il veut s'en prendre aux musulmans car il ferait trop d'enfants, reprenant ainsi les arguments de l'extrême droite. Et puis il cite le Norvégien Anders Breivik qui avait tué 77 personnes en juillet 2011 sur l'île d'Utøya. Breivik, avec lequel il affirme avoir eu un bref contact, une filiation en quelque sorte entre les deux hommes avec la même idéologie, la même terminologie utilisée, la même folie aussi.
Merci Valérie Crova. Le suspect a donc été arrêté, inculpé. Il doit comparaître demain devant le tribunal du district de Christchurch. Les messages de condamnation de cette attaque raciste et de soutien aux Néo-Zélandais ont afflué de partout dans le monde. Condoléances de la reine Elisabeth II, la chef d'État de Nouvelle-Zélande. Le président turc Erdogan y voit, lui, un nouvel exemple de la hausse du racisme et de l'islamophobie. En Italie, le dirigeant Matteo Salvini, le patron de l'extrême droite, écrit « Condamnation et mépris absolu pour les infâmes assassins, prière pour les victimes innocentes et compassion pour ceux qui pensent que c'est toujours la faute de Salvini. » Fermez les guillemets. En France, Marine Le Pen, elle, a souhaité que les attentats terroristes soient réprimés, quelle que soit leur sordide motivation. Et puis Renaud Camus, dont on vient de parler, le théoricien du grand remplacement, lui, il a condamné aussi ces attaques. Et le suspect, dit-il, ne peut pas se réclamer de mes écrits puisque je soutiens exactement le contraire. La France, où le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a ordonné le renforcement de la surveillance des lieux de culte et appeler les préfets à la plus grande vigilance. Bonsoir Mathilde Himy.
Bonsoir Amélie.
Vous vous êtes rendue à la grande mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis où les fidèles musulmans portaient le deuil de leurs frères néo-zélandais. Des fidèles particulièrement touchés donc par les liens que l'on vient de voir entre l'assaillant et les théories xénophobes de Renaud Camus.
Et Abdel fait partie de ceux peu nombreux qui connaissent ces écrits d'extrême droite qui s'imposent de plus en plus dans la société, dit-il.
Certains politiques, sans les nommer, ont beaucoup joué là-dessus, justement pour essayer de se rendre plus visible. C'est juste des thèses qui opposent les Français aux Français. Qu'on veuille ou pas, la France elle est nôtre, voilà. Faut qu'on s'accepte différent et qu'on se veuille complémentaire.
Il faut lutter contre l'obscurantisme, poursuit Abdel, à commencer par nous. Pendant son prêche, l'imam dénonce les attaques contre toutes les religions. Il n'est pas étonnant pour Mohamed Ennich que le terroriste australien ait été marqué par son voyage en France, car trop souvent de polémique en polémique, dit le président de la grande mosquée de Pantin, les musulmans de France sont présentés comme un problème.
Cette thèse-là, véhiculée par l'extrême droite, trouve un relais dans les médias. Il y a des intellectuels et distillent ces idées-là, minoritaires, de grand remplacement au grand public. Donc chacun doit prendre sa responsabilité dans cette stigmatisation-là.
Responsabilité des médias et des réseaux sociaux où la tuerie a été diffusée en direct. Des images choquantes pour Mohamed. Sécuriser les mosquées, en revanche, ne changera rien.
Les patrouilles de police ne seront pas renforcées à long terme, c'est-à-dire qu'ils vont patrouiller pendant une semaine, deux semaines, d'accord ? Et après, ça redeviendra comme avant. Que ce soit dans une mosquée ou que ce soit dans une synagogue ou dans une église, hein, ça va durer deux semaines et après, ils auront le champ libre.
D'autres trouvent l'intention louable. Cette mesure du ministère montre au moins que nous sommes des citoyens comme les autres, disent-ils.
Reportage à la grande mosquée de Pantin. Merci, Mathilde Dehimi.
Ils ne sont pas responsables de leurs parents djihadistes. La France accepte de les prendre en charge.
Des enfants de combattants de Daesh ont été rapatriés en France. C'est une première. Les autorités viennent de confirmer le retour de 5 mineurs orphelins âgés d'un an à 5 ans. Ils se trouvaient dans des camps en Syrie. C'est une première victoire pour leur famille. Écoutez l'avocate de l'une des fillettes rentrées, Marie Dosé.
C'est un immense soulagement pour les 5 orphelins qui ont été rapatriés parce qu'ils sont sauvés du pire. Et puis la seconde, celle qui vient très vite, c'est l'immense inquiétude qui me taraude depuis des jours, ou plus exactement des semaines, concernant les 100 autres enfants qui sont actuellement détenus là-bas, et notamment dans le camp Al-Hol, et qui sont actuellement exposés à un risque de mort. Maintenant que ces enfants sont rapatriés, on va tous les rapatrier. D'abord, ce que ça nous prouve, c'est qu'on peut décider et organiser une opération de rapatriement en quelques heures, en tout cas en moins de 24 heures, parce que la petite fille dont je m'occupe, elle a été arrachée des bras de sa maman adoptive il y a 24 heures. Aujourd'hui, elle est sur le territoire français, donc c'est pas très compliqué à organiser tout cela. Et puis surtout, on ne peut pas dire, vous, les autres enfants français, vous continuez à mourir, vous continuez à périr et vous continuez à tomber malade parce que votre mère a le malheur d'être encore en vie. C'est complètement dingue.
L'avocate Marie Dauzé, interrogée par Sophie Parmentier. En revanche, en ce qui concerne les adultes, les Français combattants ayant suivi Daesh en Irak ou en Syrie, la position de la France n'a pas changé. Ils doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes. Pas question de les faire revenir. Donc, les Pays-Bas annoncent aujourd'hui l'arrestation de deux personnes à Amsterdam, deux personnes soupçonnées d'être liées aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris et aux armes utilisées par les terroristes. Un dictateur exhumé en Espagne, le gouvernement a décidé de sortir la dépouille de Franco de son mausolée le 10 juin prochain pour l'enterrer dans un cimetière au nord de Madrid, la capitale. C'était une promesse du premier ministre socialiste Pedro Sanchez.
C'est vendredi, alors on fait quoi ce week-end? La prescription culturelle, c'est quoi?
Absolument, c'est le coup de cœur de Corinne Pellissier cette semaine. C'est une masterclass et même une nuit entière avec le réalisateur du film Drive, Nicolas Winding Refn. Il est l'invité cette année du festival Toute la musique du monde jusqu'à dimanche à la Cinémathèque française à Paris. Festival consacré aux films restaurés. C'est l'occasion de redécouvrir des classiques ou des grands oubliés du 7e art. Et le Danois adore ça, il s'est lui-même lancé dans la restauration de vieux films de série B sur une plateforme dont la version française des débarque chez nous demain, Corinne Pellissier.
C'est une plateforme à son image, remplie de bizarreries et d'inclassables à petit budget. Des films de série B oubliés qui traitent de sexe ou de violence en écho à son propre cinéma. Un faux documentaire ici en noir et blanc, Chain Girls, le genre de film pour Nicolas Winding Refn que vous ne trouverez jamais sur Netflix ou Amazon.
The first part of the manifest was always that it was going to be free.
Principe numéro un, je voulais que ce soit gratuit, car ma démarche est sincère. J'avais ce besoin de partager. Les plateformes aujourd'hui font toutes la même chose. Un catalogue payant et un seul objectif, le volume. Mais la plupart de ce qu'on nous propose est totalement nul. Je ne comprends pas qu'on doive payer pour ça.
On connaissait le réalisateur de Drive, collectionneur obsessionnel d'affiches de films improbables. On le découvre aujourd'hui, curateur de rareté et mécène, puisque c'est avec l'argent qu'il a gagné en tournant des publicités qu'il s'est lancé l'an passé dans la restauration de films. Une expérience unique pour l'utilisateur de sa plateforme. Une thématique par trimestre, un film par mois et beaucoup de contenu, musique, photos, vidéos. Une façon pour lui de rendre hommage à la créativité stimulante de ses films oubliés des années 60.
C'est comme une chasse au trésor. Ce qui m'intéresse, c'est la rareté, ce qui est caché et globalement tout ce qui échappe au bon goût. J'ai toujours été attiré par ce côté fétichiste de la musique ou de l'imagerie pop que l'on retrouve partout aujourd'hui. Tout cela m'a beaucoup inspiré.
À l'occasion du lancement de sa plateforme en français, Nicolas Winding Refn proposera tout ce week-end à Paris quelques films en avant-première, très en phase avec la thématique du moment, Smell of Female, que l'on croirait tout droit sorti d'un disque des Cramps.
Voilà, la plateforme de Nicolas Winding Refn s'appelle bynwr.com. On termine par cette étude assez indispensable qui fait le lien aujourd'hui entre musique et fromage. Expérience menée en Suisse sur de l'emmental. Pendant plusieurs mois, la Haute École des Arts de Berne a affiné des meules au son de Led Zeppelin, de Mozart ou encore des rappeurs de Tribe Called Quest. Et le résultat est sans appel, ils ont des goûts différents. Alors quel est le meilleur, vous me demandez, hein, Claire? Oui. Selon les goûteurs, et ben c'est celui qui a vieilli au son du hip-hop.
C'est voilà. Incroyable. Merci beaucoup Amélie Perrier.